53 Super Flumina Babylonis. Prends ta couronne d'épines, ô martyr, et revêt ta robe de lin, ô prêtresse, car tu vas mourir au monde et descendre dans le cercueil. Prends ta couronne d'étoiles, ô bienheureuse, et revêt ta robe de noces, ô fiancée, car tu vas vivre pour le ciel et devenir l'épouse du Christ. Ainsi chantent en chœur les saintes filles du monastère lorsqu'une sœur nouvelle leur est adjointe par les liens d'un hymen mystique avec le Fils de Dieu. L'église est pareille comme au plus beau jour de fête. Les cours sont jonchés de roses effeuillées, les chandeliers d'or étincellent au tabernacle, la myrrhe et le benjoin pétillent et montent en fumée sous la blanche main des jeunes diacres. Les tapis d'Orient se déroulent en lames métalliques et en moelleuses arabesques sur les marbres du parvis. Les colonnes disparaissent sous les draperies de soie que la chaude haleine de midi soulève lentement. Et de temps à autre, parmi les guirlandes de fleurs, les franges d'argent et les lampes ciselées, on aperçoit la face ailée d'un jeune séraphin de mosaïque qui se détache sur un fond d'or étincelant et semble se disposer à prendre sa volée sous les voûtes arrondies de la nef. C'est ainsi qu'on pare et qu'on parfume l'église de l'abbaye lorsqu'une novice est admise à prendre le voile et l'anneau sacré. En approchant du couvent des Camaldules, Trainmore vit la route et les abords encombrés d'équipages, de chevaux et de valets. Le baptistère, grande tour isolée qui s'élevait au centre de l'édifice, remplissait l'air du bruit de ses grosses cloches, dont la voix austère ne retentit qu'aux solennités de la vie monacale. Les portes des cours et celles de l'église étaient ouvertes à deux battants et la foule se pressait dans le parvis. Les femmes riches ou nobles de la contrée, toutes parées et bruyantes, et les silencieux enfants d'Albion, toujours et partout assidus à ce qui est spectacle, occupaient les tribunes et les places réservées. Trainmore pensa bien que ce n'était pas le moment de demander à voir Lélia. Il y avait trop d'agitation et de troubles dans le couvent pour qu'il fût possible de pénétrer jusqu'à elle. D'ailleurs, toutes les portes des cloîtres intérieurs étaient sourdes. Les chaînes des sonnettes avaient été supprimées. Des rideaux de tapisserie couvraient toutes les fenêtres. Le silence et le mystère qui régnaient sur cette partie de l'édifice contrastaient avec le bruit et le mouvement de la partie extérieure abandonnée au public. Le proscrit, forcé de se dérober au regard, profita de la préoccupation de la foule pour se glisser, inaperçu, dans un enfoncement pratiqué entre deux colonnes. Il était près de la grille qui séparait la nef en deux et sur laquelle une magnifique tenture de Smyrne abaissait un voile impénétrable. Forcé d'attendre le commencement de la cérémonie, il fut forcé aussi d'entendre les propos qui se croisaient autour de lui. « Ne sait-on point le nom de la professe ?» dit une femme. « Non, répondit une autre, jamais on ne le sait avant que les vœux soient prononcés. Autant les Camaldules sont libres à partir de ce moment, autant leur règle est austère et effrayante durant le noviciat. La présence du public à leurs ordinations ne soulève pas le plus léger coin du mystère qui les enveloppe. Vous allez voir une novice qui changera de costume sous vos yeux et vous n'apercevrez pas ses traits. Vous entendrez prononcer des vœux et vous ne saurez pas qui les ratifie. Vous verrez signer un engagement et vous ne connaîtrez pas le nom de la personne qui le trace. Vous assisterez à un acte public et cependant, nul dans cette foule ne pourra rendre compte de ce qui s'est passé, ni protester en faveur de la victime si jamais elle invoque son témoignage. Il y a ici au milieu de cette vie si belle et si suave en apparence, quelque chose de terrible et d'implacable. L'Inquisition a toujours un pied dans ces sanctuaires superbes de l'orgueil et de la douleur. Mais enfin, objecta une autre personne, on sait toujours à peu près d'avance dans le public quelle est la novice qui va prononcer ses vœux. Du moins, on le découvre pour peu qu'on s'y intéresse. « Ne le croyez pas, lui répondit-on. Le chapitre met en œuvre toute la diplomatie ecclésiastique pour faire prendre le change aux personnes intéressées à empêcher la consécration. Le secret est facile à garder derrière ces grilles impénétrables. Il y a certains amants ou certains frères qui a usé ses genoux à invoquer les gardiennes de ses murs et qui a perdu ses nuits à errer alentour un an encore après que l'objet de sa sollicitude avait pris le voile ou avait été transféré secrètement dans un autre monastère. Cette fois, il paraît qu'on a redoublé de précautions pour empêcher le nom de la professe d'arriver à l'oreille du public. Les uns disent qu'elle a fait un noviciat de 5 ans et d'autres pensent, à cause de ce bruit précisément, qu'elle n'a porté le voile de lin que pendant quelques mois. La seule chose certaine, c'est que le clergé s'intéresse beaucoup à elle, que le chapitre de l'abbaye compte sur des dons magnifiques et qu'il y aurait beaucoup d'obstacles à sa profession religieuse si on ne les avait habilement écartés. Il court à cet égard des bruits extraordinaires, dit la première interlocutrice. Tantôt on dit que c'est une princesse de sang royal. Tantôt on dit que ce n'est qu'une courtisane convertie. Il y en a qui pensent que c'est la fameuse Zinzolina qui fit tant de bruit l'an passé à la fête de Bambucci. Mais la version qui mérite le plus de foi, c'est que la professe d'aujourd'hui n'est autre que la princesse Claudia Bambucci elle-même. On assure, reprit une autre en baissant la voix, que c'est un acte de désespoir. Elle était éprise du beau prince grec Paolaggi, qui a dédaigné son amour pour suivre la riche Lélia au Mexique. « Je sais de bonne part, dit un nouvel interlocuteur, que la belle Lélia est dans les cachots de l'Inquisition. Elle était affiliée aux Carbonari. « Non, dit un autre, elle a été assassinée à la Punta de Oro. » Les premières fanfares de l'orgue interrompirent cette conversation. Aux accords d'un majestueux introït, le vaste rideau du chœur se sépara lentement et découvrit les profondeurs mystérieuses du chapitre. La communauté des Camaldules arriva par le fond de l'église et défila lentement sur 2 lignes, se divisant vers le milieu du chœur et allant par ordre prendre place à la double rangée de stalles du chapitre. Les religieuses proprement dites parurent les premières. Leur costume était simple et superbe. Sur leur robe, d'une blancheur éclatante, tombait du sein jusqu'aux pieds le scapulaire d'étoffe écarlate, emblème du sang du Christ. Le voile blanc enveloppait la tête. Le voile de cérémonie, également blanc et fin, couvrait tout le corps d'un manteau diaphane et traînait majestueusement jusqu'à terre. Après celle-ci marchaient les novices, troupeaux sveltes et blancs, sans pourpre et sans manteau. Leurs vêtements moins traînants laissaient voir le bout de leurs pieds nus, chaussés de sandales, et l'on assurait que la beauté des pieds n'était pas dédaignée parmi elles. C'était le seul endroit par où elles pussent briller, le visage même étant couvert d'un voile impénétrable. Quand elles furent toutes agenouillées, l'abbesse entra avec la dépositaire à sa droite et la doyenne à sa gauche. Tout le chapitre se leva et la salua profondément, tandis qu'elle prenait place dans la grande stalle du milieu. L'abbesse était courbée par l'âge. Par marque de distinction, elle avait une croix d'or sur la poitrine et sa main soutenait une crosse d'argent légère et bien travaillée. Alors on entonna l'hymne « Veni Creator » et la prophesse entra par la porte du fond. Cette porte était double. Le battant qui s'était ouvert pour la communauté s'était refermé. Celui qui s'ouvrit pour la prophesse était précédé d'une galerie étroite et profonde qu'éclairait faiblement une rangée de lampes d'un aspect vraiment sépulcral. Elle avança comme une ombre, escortée de deux jeunes filles, adolescentes couronnées de roses blanches, qui portaient chacune un cierge, et de deux beaux enfants en costume d'anges du Moyen-Âge, corsets d'or, ailes effilées, tuniques d'argent, chevelures blondes et bouclées. Ces enfants portaient des corbeilles pleines de feuilles de rose. La prophesse, un lys de filigrane d'argent. C'était une femme très grande, et quoiqu'elle fût entièrement voilée, on jugeait à sa démarche qu'elle devait être belle. Elle s'avança avec assurance et s'agenouilla au milieu du chœur sur un riche coussin. Ses quatre acolytes s'agenouillèrent dans un ordre quadrangulaire autour d'elle et la cérémonie commença. Trainemore entendit murmurer autour de lui que c'était à coup sûr Pulchérie, dite la Zinzolina. À l'autre extrémité de l'église, un autre spectacle commença. Le clergé vint au maître-autel étaler l'apparat de son cortège. Des prélats s'assirent sur de riches fauteuils de velours. Quelques capucins s'agenouillèrent humblement sur le pavé. De simples prêtres se tinrent debout derrière les éminences et le clergé officiant se montra le dernier en grand costume. Un cardinal, renommé pour son esprit, célébra la messe. Un patriarche réputé saint prononça l'exhortation. Trainemore fut frappé du passage suivant. Il est des temps où l'Église semble se dépeupler parce que le siècle est peu croyant, parce que les événements politiques entraînent la génération dans une voie de tumulte et d'ivresse. Mais dans ces temps-là même, l'Église remporte d'éclatantes victoires. Les esprits vraiment forts, les intelligences vraiment grandes, les cœurs vraiment tendres viennent chercher dans son sein et sous son ombre l'amour, la paix et la liberté que le monde leur a déniées. Il semble alors que l'ère des grands dévouements et des grands actes de foi soit prête à renaître. L'Église tressaille de joie. Elle se rappelle saint Augustin qui, à lui seul, résuma et personnifia tout un siècle. Elle sait que le génie de l'homme viendra toujours s'humilier devant elle parce qu'elle seule lui donnera sa véritable direction et son véritable aliment. Ces paroles, qui furent vivement approuvées par l'auditoire, firent froncer le sourcil de Trainemore. Il reporta ses regards sur la prophesse. Il eût voulu avoir l'œil du magnétisme pour percer le voile mystérieux. Aucune émotion ne soulevait le moindre pli de ce triple rempart de lin. On eût dit la statue d'Isis, toute d'albâtre ou d'ivoire. Au moment solennel où, traversant la foule pressée sur son passage, la prophesse, sortant du chapitre, entra dans l'église, un murmure inexprimable d'émotion et de curiosité s'éleva de toutes parts. Un mouvement d'oscillation tumultueuse fut imprimé à la multitude et toutes ces têtes que Trainemore dominait de sa place ondulèrent comme des flots. Des archers aux ordres du prélat qui présidait à la cérémonie, rangés sur deux files, protégeaient la marche lente de la prophesse. Elle s'avançait accompagnée d'un vieux prêtre chargé du rôle de tuteur et d'une matrone laïque, symbole de mère, conduisant sa fille au céleste hyménée. Elle monta majestueusement les degrés de l'autel. Le patriarche, revêtu de ses habits pontificaux, l'attendait, assis sur une sorte de trône adossé au maître-autel. Les parents putatifs restèrent debout, dans une attitude craintive et la prophète, ensevelie sous ses voiles blancs, s'agenouilla devant le prince de l'Église. « Vous qui vous présentez devant le ministre du Très-Haut, quel est votre nom ?» dit le pontife d'une voix grave et sonore, comme pour inviter la prophète à répondre du même ton et à proclamer son nom devant l'auditoire palpitant. La prophète se leva et, détachant l'agrafe d'or qui retenait son voile sur son front, tous les voiles tombèrent à ses pieds, et sous l'éclatant costume d'une princesse de la terre parée pour un jour de noces, sous les flots noirs d'une magnifique chevelure tressée de perles et nouée de diamants, sous les plis nombreux d'une gaze d'argent semée de blancs camélias, on vit rayonner le front et se dresser la taille superbe de la femme la plus belle et la plus riche de la contrée. Ceux qui y plaçaient derrière elle ne la reconnaissaient encore qu'à ses larges épaules de neige et à son port impérial, doutaient et se regardaient avec surprise. Et, dans cette avide attente, un tel silence planait sur l'assemblée qu'on eût entendu l'imperceptible travail de la flamme consumant la cire odorante des flambeaux. « Je suis Lélia d'Almovar, » dit la prophète d'une voix forte et vibrante qui semblait vouloir tirer de leur sommeil éternel les morts ensevelis dans l'église. « Êtes-vous fille, femme ou veuve ?» demanda le pontife. « Je ne suis ni fille, ni femme, selon les expressions adoptées et les lois instituées par les hommes, » répondit-elle d'une voix encore plus ferme. « Devant Dieu, je suis veuve. » À cet aveu sincère et hardi, les prêtres se troublèrent et, dans le fond du cœur, on eût pu voir les nonnes éperdues se voiler la face ou s'interroger l'une l'autre, espérant avoir mal entendu. Mais le pontife, plus calme et plus prudent que son timide troupeau, conserva un visage impassible, comme s'il se fût attendu à cette réponse audacieuse. La foule resta muette. Un sourire ironique avait circulé à l'interrogation consacrée, car on savait que Lélia n'avait jamais été mariée et qu'Hermolao avait vécu 3 ans avec elle. Si la réponse de Lélia offensa quelques esprits austères, du moins elle ne fit rire personne. « Que demandez-vous, ma fille ? » reprit le cardinal. « Et pourquoi vous présentez-vous devant le ministre du Seigneur ?»« Je suis la fiancée de Jésus-Christ, » répondit-elle d'une voix douce et calme, « et je demande que mon hymen avec le Seigneur de mon âme soit indissolublement consacré aujourd'hui. Croyez-vous en un seul Dieu en 3 personnes, en son Fils Jésus-Christ, Dieu fait homme et mort sur la croix pour... « Je jure, » répondit Lélia en l'interrompant, « d'observer tous les préceptes de la foi chrétienne, catholique et romaine. » Cette réponse, qui n'était pas conforme au rituel, ne fut remarquée que d'un petit nombre d'auditeurs. Et durant tout le reste de l'interrogatoire, la prophète prononça plusieurs formules qui semblaient renfermer de mystérieuses restrictions et qui firent tressaillir de surprise, d'épouvante ou d'inquiétude, une partie du clergé présent à la cérémonie. Mais le cardinal restait calme et son regard impérieux semblait prescrire à ses inférieurs d'accepter les promesses de Lélia, quelles qu'elles fussent. Après l'interrogatoire, le pontife, se retournant vers l'autel, adressa au ciel une fervente prière pour la fiancée du Christ. Puis il prit l'ostensoir étincelant, qui renferme l'hostie consacrée, et reconduisit la prophète jusqu'à la grille du chapitre. Là, on avait dressé un élégant autel portatif en forme de prie-dieu sur lequel on plaça l'ostensoir. La prophète s'agenouilla devant cet autel, la face découverte et tournée pour la dernière fois vers cette foule avide de la contempler encore. En ce moment, un jeune homme qui, debout dans le coin d'une tribune, le dos appuyé à la colonne et les bras croisés sur la poitrine, ne semblait prendre aucune part à ce qui se passait, se pencha brusquement sur la balustrade et, comme s'il sortait d'un lourd sommeil, il promena des regards hébétés sur la foule. Au premier moment, Trenmorcel le remarqua et le reconnut, mais bientôt tous les regards se portèrent sur lui, car lorsque ses yeux eurent rencontré, comme par hasard, les traits de la professe, il montra une agitation singulière et parut faire des efforts inouïs pour se tenir éveillé. « Regardez donc le poète Stenio, dit un critique qui le haïssait. « Il est ivre, toujours ivre. »« Dites qu'il est fou, reprit un autre. « Il est malheureux, dit une femme. « Ne savez-vous pas qu'il a aimé les liens ?» La professe disparut un instant et revint bientôt, dépouillée de tous ses ornements, vêtue d'une tunique de laine blanche, ceinte d'une corde. Ses beaux cheveux déroulés étaient répandus en flots noirs sur sa robe de pénitente. Elle s'agenouilla devant l'abbesse et, en un clin d'œil, cette magnifique chevelure, orgueil de la femme, tomba sous les ciseaux et joncha le pavé. La professe était impassible. Il y avait un sourire de satisfaction sur les traits flétris des vieilles nonnes, comme si la perte des dons de la beauté eût été une consolation et un triomphe pour elle. Le bandeau fut attaché. Le front altier de Lélia fut à jamais enseveli. « Reçois ceci comme un joug, » chanta l'abbesse d'une voix sèche et cassée. « Et ceci comme un suaire, » ajouta-t-elle en l'enveloppant du voile. La camaldule disparut alors sous un drap mortuaire. Couchée sur le pavé entre deux rangées de cierges, elle reçut l'aspersion d'Isope et entendit chanter sur sa tête le De Profondis. Trenmore regarda Stenio. Stenio regardait ce linceul noir étendu sur un être plein de force et de vie, d'intelligence et de beauté. Il ne comprenait pas ce qu'il voyait et ne donnait plus aucun signe d'émotion. Mais quand la camaldule se releva et, sortant délivrée de la mort, vint, le regard serein et le sourire sur les lèvres, recevoir de l'abbesse la couronne de roses blanches, l'anneau d'argent et le baiser de paix, tandis que le cœur entonnait l'hymne « Veni sponsa Christi », Stenio, saisi d'une terreur incompréhensible, s'écria à plusieurs reprises, d'une voix étouffée, « Le spectre ! Le spectre !» et il tomba sans connaissance. Pour la première fois, la professe fut troublée. Elle avait reconnu cette voix altérée et ce cri retentit dans son cœur, comme un dernier effort, comme un dernier adieu de la vie. On emporta Stenio qui semblait en proie à un accès d'épilepsie. Les spectateurs avides, voyant chanceler Lélia, se pressèrent tumultueusement vers la grille, espérant assister à quelque scandale. L'abbesse, effrayée, donna aussitôt l'ordre de tirer le rideau. Mais la nouvelle camaldule, d'un ton de commandement qui pétrifia et domina toute la communauté, démentit cet ordre et fit continuer la cérémonie. « Madame, dit-elle tout bas à la supérieure qui voulait insister, je ne suis point une enfant. Je vous prie de croire que je sais garder ma dignité moi-même. Vous avez voulu me donner en spectacle. Laissez-moi achever mon rôle. » Elle s'avança au milieu du chœur où elle devait chanter une prière adoptée par le rituel. Quatre jeunes filles se préparèrent à l'accompagner avec des harpes. Mais au moment d'entonner cet hymne, soit que sa mémoire vint à la trahir, soit qu'elle céda à l'inspiration, Lélia ôta l'instrument des mains d'une des joueuses de harpe et, s'accompagnant elle-même, improvisa un chant sublime sur ses paroles du cantique de la captivité. « Nous nous sommes assises auprès des fleuves de Babylone et nous y avons pleuré, nous souvenant de Sion. Et nous avons suspendu nos harpes au sol du rivage. Quand ceux qui nous avaient amenés en captivité nous ont demandé des paroles de cantique et de les réjouir du son de nos harpes en nous disant « Chantez-nous quelque chose des cantiques de Sion !» Nous leur avons répondu « Comment chanterions-nous le cantique de l'Éternel sur une terre étrangère ? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite s'oublie elle-même, que ma langue soit attachée à mon palais si je ne me souviens de toi à jamais et si je ne fais de Jérusalem l'unique sujet de ma réjouissance. Ô Éternel, tes filles se souviendront de leurs autels et de leurs bocages auprès des arbres verts sur les hautes collines. Babylone, qui va être détruite, puisses-tu ne pas souffrir le mal que tu nous as fait ? C'est pourquoi, vous, femmes, écoutez la parole de l'Éternel et que votre cœur reçoive la parole de sa bouche. Enseignez vos filles à se lamenter et que chacune apprenne à sa compagne à faire des complaintes. Car la mort est montée par nos fenêtres, elle s'est logée dans nos demeures. Qu'elle se hâte, qu'elle prononce à haute voix une lamentation sur nous, et que nos yeux se fondent en pleurs, et que nos paupières fassent ruisseler des larmes. Ce fut la dernière fois que l'Élia fit entendre aux hommes cette voix magnifique à laquelle son génie donnait une puissance invincible. À demi agenouillé devant sa harpe, les yeux humides, l'air inspiré, plus belle que jamais sous le voile blanc et la couronne d'Hyménée, elle fit une impression profonde sur tous ceux qui la virent. Chacun songea à Sainte Cécile et à Corinne. Mais parmi tout cela, il n'y eut que Traînemort qui, du premier coup, comprit le sens douloureux et profond des versets sacrés que l'Élia avait choisis et arrangés au gré de son inspiration pour prendre congé de la société humaine et lui signifier la cause de son divorce avec elle.